Bobby.
Laissez-moi rire.
Radio Campus.
Oh, bien.
Vous savez que j'ai passé une nuit blanche à cause de...
Mettons l'accent. Radio Campus 88.3 FM. Bonjour, bienvenue dans notre émission Mettons l'accent. Nous sommes des étudiants de l'Institut de français à l'Université d'Orléans. Bonjour mes camarades Anastasia, Belada, Richard et Angelina et moi-même Nima. Dans le cadre de notre émission, nous allons parler football. On parlera également de la journée du 8 mars, suivie de l'interview de Madame Bessard. Et on abordera aussi l'orientation professionnelle. Pour commencer, écoutons les témoignages des étudiants étrangers. Bonne écoute.
Bonjour, je me présente. Je m'appelle Nima, je suis étudiante au Institut de français. Le thème dont nous allons parler, c'est des difficultés rencontrées par des étudiants étrangers. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Christine et Sunny, vous êtes étudiantes en master pour le commerce international.
Oui, c'est ça.
Donc, alors, comme vous êtes des étudiants étrangers, j'aimerais vous poser quelques questions concernant ces sujets. Mm-hmm. Pour commencer, je vais interroger l'une d'entre vous. Mm-hmm. Et j'ai commencé par Christine. Et bon, Christine.
Oui.
J'ai dit Christine. Bon, avez-vous eu des contraintes pour vous loger?
Oui, parce que je suis venue du Sénégal en septembre. Et il m'a fallu plus d'un mois pour trouver un logement au CROUS.
Septembre 2020.
Septembre 2020, pardon. Je suis venue du Sénégal en septembre 2020.
Oui.
Et je suis restée sur Paris.
Oui.
Parce que je n'arrivais pas à trouver un logement sur Orléans.
Oui.
Et par la suite, c'est l'association sénégalaise d'Orléans qui oui. m'a trouvé un logement temporaire en attendant que j'aie ma chambre au CROUS.
Donc,
en octobre 2020.
Vos cours, c'est sur Orléans.
Oui,
et puis, vous, au début, vous habitiez
Sur Paris.
Sur Paris, avec des associations.
Non, sur Paris, c'était avec mes cousines. Mais okay. sur Orléans, il y a l'association ici. C'est
oui.
eux qui m'ont trouvé quelqu'un pour m'héberger
oui.
ici sur Orléans en attendant que je trouve autre chose au CROUS, un logement.
D'accord. Donc, pendant que vous trouvez les jumeaux ici sur Orléans, vous étiez à Paris toujours, jusqu'à vous trouver les jumeaux.
Non, je suis venue ici
oui.
Parce que j'avais raté 3 semaines de cours. Puis finalement, je suis venue ici. J'ai habité avec une fille, une Sénégalaise, qui m'avait hébergée. Puis 2 semaines après, j'ai trouvé un logement au CROUS.
D'accord,
oui.
d'accord. Et alors, je voudrais poser quelques questions qui concernent les quotidiens.
Oui.
Et donc, avez-vous des amis français?
Non, mais j'ai un parrain et une marraine qui sont français.
Comment?
C'est un parrain.
Parent?
Parrain. Et une marraine.
Parrain, une marraine, oui.
C'est un peu... J'explique.
Oui.
C'est l'association OSEM, je ne sais pas si je...
Ah, veux. D'accord.
Après, quand tu t'inscris là-bas,
oui.
tu dis que je suis étudiante étrangère et, et j'aimerais avoir un parrain ou une marraine. Et ces gens-là, ils t'aident dans tes démarches administratives
oui.
à la préfecture ou ils t'aident à trouver des distributions alimentaires, par exemple.
Mm-hmm.
Tout ça, après, vous pouvez aussi être des amis par la suite, organiser des sorties, aller chacun chez l'autre et tout ça, pour mieux se connaître, en fait. Mais ils t'aident vraiment beaucoup dans tout ce qui est démarches administratives pour les titres de séjour et tout ça.
C'est intéressant.
Oui, c'est très intéressant.
Et tu n'es pas, vous n'avez pas des étudiants, vous n'avez pas des amis français.
Donc, non, je pense pas.
D'accord. Et,
pas étudiants en tout cas.
Ah, d'accord.
Oui.
Mais vous avez des amis, vous avez des connaissances
ici sur Orléans?
Oui,
oui, oui.
Français?
Oui, français aussi.
D'accord, très oui. bien.
Mais je les ai connus en dehors de l'université, donc d'accord. ce ne sont pas des étudiants.
D'accord. Et deuxième question, et sortez-vous les week-ends pour boire un verre?
Oui, avec des amis. On avec... sort souvent en centre-ville d'Orléans.
Oui.
Pour se faire plaisir un peu. Oui. Sortir, boire des verres, parfois même manger dans les restaurants.
Oui.
Ouais.
Donc, des amis que tu les connais
Ce sont des Sénégalais.
Ce sont des Sénégalais.
Oui, comme moi.
Ok.
Oui.
Très bien.
Ouais.
Je voudrais proposer encore une question plus un peu en général.
Oui.
Pourquoi avez-vous choisi d'étudier en France?
Je sais pas. Parce que je voulais juste faire... la préinscription, puisque c'était pas trop simple au Sénégal en ce moment-là. Il y avait beaucoup de grèves à l'université.
Oui.
Il y avait des manifestations, les étudiants se manifestaient beaucoup et on est rentré chez nous pendant des mois.
Oui.
On a pas étudié en fait. Du coup, ma cousine m'a proposé de faire une préinscription pour venir en France, commencer des études. C'est ça qui m'a poussé à venir. Sinon, j'avais pas vraiment choisi carrément de venir en France. C'est juste parce que j'avais pas le choix à cause de l'interruption des cours au Sénégal.
Mm-hmm.
Donc, je me suis dit, donc, avec l'aide de ma cousine, pourquoi pas venir terminer mm-hmm. mes études ici.
D'accord.
Oui.
D'accord. Encore des questions qui concernent votre étude.
Oui.
À quelles difficultés faites-vous face concernant vos cours?
Là, maintenant,
oui.
Je n'ai pas vraiment de difficultés, mais quand je venais d'arriver,
oui.
Le système français est très différent de celui du Sénégal.
Oui.
C'était pas pareil, donc j'avais beaucoup de mal à m'adapter à la façon dont les cours se faisaient ici.
Mm-hmm.
Parce que c'est un peu différent. Donc la première année, j'ai un peu souffert.
Mm-hmm.
Je n'arrivais pas à m'adapter, donc, mais au fur et à mesure, avec l'aide des professeurs,
ouais.
Je pense que je posais beaucoup de questions aussi.
Oui.
J'ai commencé à me rappeler. Mais là, maintenant, ça va. Je maîtrise
donc,
un peu la situation.
Donc, au début, c'était un peu difficile.
Oui,
mais à la
beaucoup.
Fin, c'est passé bien.
Oui, tout s'est bien passé.
Très
oui.
bien. Donc, est-ce que vous travaillez en groupe avec vos collègues ou toute seule pour les cours?
Oui, on travaille en groupe la majeure partie du temps.
C'est intéressant, ça.
Oui, c'est très intéressant parce qu'on arrive à échanger pendant les cours, tout ça.
Oui.
On a des examens en groupe aussi.
Oui.
Donc, c'est super.
D'accord. Et donc, au début aussi, quand vous avez manqué des cours, au début, c'était difficile pour toi. Donc, est-ce que vous arriviez à trouver un camarade pour travailler avec eux au début.
Au début, c'était les travaux de groupe étaient les groupes étaient choisis par le professeur, donc
mm-hmm.
on n'avait pas le choix, on devait travailler ensemble. Mais là, c'est nous qui choisissons nos propres groupes, donc.
Ah d'accord. Pour les premières années,
oui,
c'est les profs qui choisissent
oui.
les groupes.
Les groupes de travail.
Avec quel groupe on travaille?
Oui, c'est ça, c'est exactement ça.
D'accord. Donc je vais poser la dernière question.
Mm-hmm.
C'est une question un peu générale.
Oui.
Donc, pouvez-vous comparer la vie étudiante en France à la vie étudiante de votre pays?
Oui.
Oui.
Parce que j'ai déjà été à l'université au Sénégal. J'avais commencé mes 3 années là-bas.
Oui.
Jusqu'à la licence 3.
Oui.
Et c'est pas du tout pareil parce que au Sénégal, c'est très facile de se faire des amis, je dirais.
Oui.
Et la vie étudiante est plus animée là-bas.
Oui.
à l'université, par exemple. Et
Animé, c'est-à-dire.
c'est-à-dire que, par exemple, on a installé un système de anciens et de nouveaux. On
Ah,
s'appelle ans. Ceux
d'accord.
qui sont venus avant toi, tu dois
Oui.
les appeler ans. Et ceux qui viennent, genre les nouveaux,
Nouveau,
sont les
oui.
bleus. On les appelle les bleus.
Oui.
Et à chaque fois que tu viens, tu auras forcément des anciens qui étaient dans la même filière que toi. Et
Oui.
ces gens-là te prennent sous leurs ailes, ils t'expliquent comment les courses vont se passent, ils te donnent des papiers de l'année dernière, des examens
Des
pour
soutiens.
t'entraîner, oui, des cours, leurs cours de l'année dernière pour que tu puisses t'entraîner
Oui.
avant d'aller en cours, en fait. Donc tu sais pratiquement tout ce qui va se passer pendant l'année, tu as une idée de ce qui va se passer.
Oui.
Et bah, ces anciens-là, ce sont tes grands frères, entre guillemets, à l'université au Sénégal. Et pratiquement tout le monde se connaît. Il y a le respect, l'amitié entre anciens et nouveaux, les bleus et les ans. Et c'est super. Mais là, en France, je n'ai pas trouvé ça. Et pour trouver quelqu'un qui a fait la même filière que toi, c'est très difficile. C'est hyper difficile ici en France. Donc, quand tu entres dans une nouvelle classe, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Tu ne connais pas vraiment ce que tu dois faire et tout ça.
Est-ce
Donc.
que quand même vous avez osé déposer cette question pour les étudiants qui étaient dans dans votre classe? Est-ce qu'ils sont faits
Non, mais je
ou
les connaissais pas en fait
ouais
quand je venais d'arriver.
ouais
Parce que, après, comme ici, y a pas, on ne voit pas vraiment les gens font cours et rentrent directement chez eux. Donc, on n'a pas le temps de faire d'avoir des affinités pour poser la question, tu faisais quelle classe l'année dernière pour savoir si c'est ton ancien
ouais
ou pas. Donc,
D'accord.
tu vois pas les gens en fait, c'est pour ça. Donc, c'est très différent de là-bas. Là-bas, c'est la cohésion, la solidarité, tout ça. Et ici, c'est un peu. Mais voilà.
D'accord, très bien. Et Christine, qui vient du Sénégal et qui
Oui.
fait des masters en commerce, je te
Oui.
remercie beaucoup.
Je vous en prie.
Maintenant, je vous donne la parole à votre camarade. C'est les mêmes questions que j'aimerais vous poser aussi encore. Est-ce que vous aussi, vous avez eu des contraintes pour vous loger?
Dans mon cas, moi, j'étais hébergée par mon partenaire qui est français. Moi, je n'ai pas vraiment eu des problèmes
Oui.
de logement.
D'accord. Quand vous êtes arrivé, vous êtes tout de suite logé avec votre partenaire.
Exactement,
Et
oui.
jusqu'à maintenant,
Jusqu'à maintenant, oui.
va très bien,
Heureusement,
ça.
oui. Heureusement, oui.
Va très bien. Et donc, c'est vraiment bon, intéressant. Aussi, pour passer à une autre question, avez-vous des amis français?
Non, je n'ai pas vraiment aucune.
D'ailleurs, c'est les Master 1 ou c'est Master 2?
Master 2.
C'est Master 2. Et depuis quand vous êtes arrivé en France?
Je suis arrivée en 2021
Oui.
et j'ai fait mes études ici à l'IDF au début,
Oui.
la première année. Après, je commençais avec les masters.
Oui.
Mais ces masters ont une certaine particularité qui est vraiment biaisée aux étudiants
Oui.
qui sont étrangères. Ce
Ah,
ne sont pas pour
d'accord.
les étudiants français, mais on partage quelques cours avec un autre master qui a des étudiants français.
D'accord, très bien. Sortez-vous le week-end pour voir un verre, pour profiter un peu de la vie ici en France?
Oui, pas seulement le week-end, des fois.
Oui.
Famille de week-end aussi, ou de la semaine, oui.
Oui, avec tes amis.
Oui, des amis qui. Oui.
D'accord. Très bien. Donc, et pourquoi vous avez choisi d'étudier en France?
C'est une question difficile, mais surtout parce
Oui.
que j'avais déjà envie de faire un master,
Oui.
mais la pandémie est arrivée.
Oui.
Et vraiment, là, je ne pouvais pas faire les cours à distance. C'était trop fatigant pour moi. Je ne pouvais pas. Moi, Et comme j'ai vraiment rencontré mon partenaire là dans mon pays, qui est le
Oui.
Pérou, et après on a décidé de rentrer en France. Et pour, on va dire, avec cette idée de faire un master.
Oui.
Et moi, j'ai décidé de le faire ici, à Orléans, parce que c'est où mon partenaire travaille aussi.
Donc, c'est parce que c'est question des partenaires et qui.
Plutôt ça.
Qu'ils trouvent. Qui habitent en France. Et donc. Donc, après, avant de venir en France, vous parlez français ?
Pas couramment. Bon, j'avais déjà étudié français, mais il y a très longtemps, peut-être un peu près de 10, il y a 10 ans.
Oh, c'est long.
Et j'avais déjà oublié parce que moi, j'avais personne avec qui je pouvais parler vraiment.
Oui, la langue, c'est
oui, pratiqué. Anglais, oui, bon.
D'accord. Okay. D'accord, très bien. Donc, je voudrais poser une question pour les cours. À quelles difficultés faites-vous face concernant vos cours?
Surtout, l'intensité horaire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de cours
oui.
dans la même journée. Et ça, oui. C'est un peu difficile parce qu'il n'y a pas vraiment...
C'est ennuyant, un petit peu.
C'est fatigant.
C'est fatigant,
oui. Et je n'étais pas vraiment habituée à ce type de rythme.
Oui.
Et en plus, aussi la façon d'enseigner, parce qu'il y a, par exemple, les cours magistraux.
Oui.
Seulement on entend le professeur parler, mais on n'a pas vraiment un rôle actif.
Oui.
Et ça, c'est un peu difficile. Moi, je préfère en tout cas les travaux dirigés.
Oui.
Où on peut plus vraiment interagir avec le professeur ou les autres
étudiants. Oui.
Oui.
D'accord. L'ambiance, c'est pas vraiment...
Oui, c'est un peu différent dans mon pays, dans ces cas, parce que... Et on est toujours habitué à avoir des rapports avec les professeurs, de poser des questions, n'est pas vraiment seulement rester dans...
Même si dans les cours des magistraux aussi, vous posez des questions.
Il n'y avait pas.
Pendant les cours, vous posez des questions avec les profs et comme ça ou...
On va dire que le système en PEU n'est pas fait pour avoir des cours magistraux. Ça veut dire que c'est toujours des travaux dirigés. On fait toujours des petits groupes, des maximum 30-40 personnes. Et ça, c'est... On n'a pas des cours magistraux. Ça, c'était un choc, on va dire, que je trouvais ici.
Oui, vous ne connaissez pas avant, vous trouvez seulement ici en France.
Oui.
Ok. Bon, c'est intéressant aussi de savoir comment ça se passe pour les cours à Pérou. Au Pérou, c'est ça, oui. Pérou. D'accord. Et pour les vies étudiantes en général au Pérou, c'est comment?
C'est complètement différent parce que là au Pérou, on sortait presque même tous les jours, pas même les week-ends, même après les cours. La vie étudiante au Pérou, c'était très actif.
Oui, et c'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin vraiment de planifier, on va dire des choses, de dire ok, on va se rencontrer ce jour-là. Non, on disait seulement, on sortait sans penser, sans planifier.
Mm-hmm.
Et on avait une vie très active. On sortait, il y avait aussi des bars, des restaurants qui étaient près de l'université. Ça aidait beaucoup aussi.
Mm-hmm.
Parce que, on va dire, on pouvait y aller n'importe quand. C'était dans cette façon. D'accord. C'est ce que je ne trouve pas, par exemple, ici.
Il n'y a pas d'association ici comme en France aussi. Comme en France, par exemple, il y a des associations ici pour rassembler les étudiants étrangers et les étudiants français.
Ça dépend, ça s'est fait plutôt pour les universités publiques,
oui.
Au Pérou, mais pas pour les universités privées.
Privées, d'accord.
Pour les universités privées, on va dire, on ne va pas avoir cette idée.
Vous avez fait vos études dans les universités privées.
Toujours.
D'accord, très bien. Ok, bon, c'est intéressant de savoir comment ça se passe dans vos pays aussi, comment ça se passe aussi. Je voulais poser une autre question. Est-ce que au Pérou, il y a aussi des étudiants étrangers comme en France?
Vraiment pas beaucoup.
Pas beaucoup.
Pas beaucoup. C'est maintenant où on trouve quelques étrangères, mais on n'a pas l'habitude, on va dire.
D'accord.
C'est très rare.
C'est rare. Et au Sénégal aussi?
Non, c'est pas rare au Sénégal, mais c'est plus des étudiants africains,
Oui.
plus de la Côte d'Ivoire, Congo,
Oui, c'est des étrangers, mais c'est
oui,
des
du
étrangers
Maroc.
africains.
Oui, c'est exactement ça, du
D'accord.
Maroc, Algérie et Mauritanie. C'est
Oui.
plus ceux-là qui viennent étudier au Sénégal, mais
D'accord.
pas vraiment des étudiants européens, par exemple, asiatiques ou américains. Ça, je ne sais pas s'il y en a, mais s'il y en a, c'est extrêmement rare.
D'accord.
Oui.
Bah, très bien.
Oui.
Bah, je vous remercie beaucoup
Je vous en
pour
prie.
m'avoir répondu à mes questions. Très bien. Maintenant, je vous laisse. Bonne journée.
Bonne journée.
Bah, merci beaucoup.
Au revoir.
Radio Campus. Mettons l'accent. 88.3 FM.
Bienvenue. Tu es ma camarade de classe. Je te connais. Donc, je t'invite pour le sujet des difficultés rencontrées par les étudiants étrangers. On va parler de ça.
D'accord.
Et la première question que j'aimerais proposer, donc, en commençant par les jumeaux,
D'accord.
avez-vous eu des contraintes pour vous loger?
Pas vraiment, parce que je suis arrivée en France il y a deux ans avec mon amie d'enfance. Et donc, 5 mois après notre arrivée, on a pu obtenir un logement social à l'aide de l'EFI. Tout ce qui concerne les aides sociales, donc, ils nous ont aidés à trouver un logement, donc c'est très bien. Et actuellement, on habite ensemble en colocation, et donc le logement est très bien, donc il se trouve à la source, près de l'université, donc au niveau de transport, c'est pratique.
C'est tout près
Oui, c'est tout
l'université.
près, on a assez de place pour nous deux, donc.
D'accord. Et donc, pendant cette 5 mois, vous habitiez où?
Pendant ces 5 premiers mois, on a vécu avec notre famille d'accueil. Donc, c'était à Argonne. Et moi, je remercie ma famille d'accueil de tout mon cœur parce que c'était vraiment une expérience extraordinaire pour moi. J'ai jamais pensé qu'il y a des gens comme moi.
Ah,
Donc,
d'accord,
c'était vraiment.
c'est très bien. Et en passant pour la vie quotidienne, avez-vous des amis français?
Oh, ça, c'est une bonne question.
Oui,
Ça,
c'est
c'est une
question
bonne question.
d'intégration.
Ah, ouais, je
Je pense que j'ai du mal à contacter avec les Français. Je sais pas, peut-être c'est une barrière de langue. Je
Oui,
sais pas
peut-être.
quoi, mais j'ai un seul ami français. On s'est rencontrés pendant des cours de tennis de table à l'université. Donc, on s'écrit parfois, mais pas trop souvent. Sinon, non, j'ai pas d'amis français.
Non, c'est déjà pas mal. Oui, peut-être c'est. Je pense aussi moi-même aussi c'est question de langue. Un peu aussi dans la classe, nous sommes tous des étrangers, donc.
Oui, c'est vraiment difficile, surtout quand il faut parler, je pense que de thèmes différents. Donc, si ce sont des thèmes de base, je sais pas, du quotidien, c'est facile. Mais si on commence à parler des choses un petit peu plus difficiles, moi, je commence à perdre mon latin. Et donc, je dis n'importe quoi. Donc,
Ouais.
c'est pas facile. C'est pas facile.
D'accord.
Ouais. Voilà.
D'accord. Donc, et sortez-vous les week-ends pour boire un verre?
Oh oui, mais pas avec des Français. Donc, je reste un petit peu dans mon coin avec mes amies ukrainiennes. Donc voilà. Oui, D'accord. D'habitude, vendredi soir, on peut se retrouver dans un café pour boire un verre.
C'est intéressant, ça.
Ouais, donc pour parler de tout, hein.
De tout. Oui.
Mais j'ai pas d'amis français pour que je puisse aller prendre un verre avec eux, donc.
Tu préfères quand tu seras à la
Oui, je pense que
faculté
j'ai un petit peu peur de sortir de ma zone de confort.
ou...
Moi, je suis bien comme ça. Je suis avec mes copines, donc
Oui.
voilà. J'ai pas vraiment besoin
Besoin
de
de...
faire des efforts pour raconter,
Oui. C'est bien automatique.
rencontrer des gens. Voilà.
Oui, c'est bien automatique. Bon, et pourquoi avez-vous choisi d'étudier en France?
Je pense que tu connais bien mon histoire, donc
Oui, bien sûr.
c'était pas vraiment un choix personnel. Et donc, à cause de la guerre en Ukraine, je suis arrivée en France et j'ai jamais envisagé de déménager en France, de faire des études en France. Donc, c'était vraiment quelque chose d'envisageable pour moi.
D'accord.
Mais on fait ce qu'il faut faire, donc
Ouais.
j'ai
C'est très
commencé.
délicat, cette question.
Non, non, c'est bon, c'est bon.
Mais d'accord.
Bonjour.
Bonjour. À quelles difficultés faites-vous face concernant vos cours?
Concernant les cours à EDF,
Oui.
ben, je pense qu'il n'y a pas vraiment de difficultés. Oui, c'est un programme assez intensif, assez exigeant peut-être, mais je pense que c'est bien. Je pense que c'est vraiment étudier et apprendre le français à l'EDF, c'est la meilleure façon, d'après moi,
C'est
d'apprendre.
les meilleurs, c'est les moyens les plus sûrs
Oui,
pour
donc
aller
c'est
vers.
vraiment c'est un programme complet. Donc on a des cours de français oral, de français écrit, de culture et société aussi. Ça c'est très important, surtout pour ceux qui veulent peut-être à l'avenir demander une naturalisation, tout ça. Donc je pense que c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre à l'université.
D'accord. Est-ce que vous travaillez en groupe avec vos collègues ou toute seule?
Moi, je préfère travailler seule. Comme ça, je peux être sûre du résultat obtenu. Parce que si on travaille en groupe, oui, moi, je comprends qu'il faut savoir travailler en groupe. C'est une compétence très importante. Mais je pense que ça va plus vite quand on travaille seul. Oui, donc, voilà.
D'accord. Et pouvez-vous comparer la vie d'étudiante en France à la vie d'étudiante en Ukraine?
Je ne veux pas parler en général, je peux comparer mon expérience à moi.
Oui, un pays.
Oui, donc en Ukraine, j'ai fait mes études. Au début, c'était un BTS, puis j'ai obtenu ma licence. Et donc, tout le temps, je travaillais à côté de mes études pour pouvoir tout simplement
Oui.
payer mon appartement, mon logement,
Pour vivre
pour
quotidiennement.
vivre. Ce que je trouve très bien en France,
Oui.
c'est que les étudiants, ils peuvent être un petit peu plus, comment dire, je sais pas comment dire, ils ont moins de difficultés rencontrées par rapport
Dans la vie quotidienne,
au financement, à
des
l'argent.
logements, et
Oui, donc ils
parce que
sont plus
c'est les
tranquilles.
bourses
Oui,
en
ils
Ukraine.
ont des bourses. Si on a des bourses, mais c'est vraiment, c'est très,
C'est
on peut dire
difficile à
médiocre.
accepter.
On peut dire médiocre, mais c'est
Oui.
vraiment très, 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 un petit peu une bourse,
Oui.
une petite bourse. Donc c'est pas vraiment, ça aide pas vraiment à vivre correctement pouvoir payer le logement et tout ça. Donc, moi, je trouve ça très important de, d'aider les étudiants de bien vivre en bonnes conditions.
Oui, d'aider de pendant, sortir, pendant leurs études.
Oui, pendant les études. Donc, moi, je trouve que c'est bien.
Oui, oui.
En plus, il y a beaucoup d'aides sociales. Donc, si on
d'associations.
Parle, oui, si on parle de la CAF, de, d'autres organisations qui aident les étudiants.
Mm-hmm.
Donc, moi, je trouve que c'est très important. Malheureusement, en Ukraine, il n'y a pas vraiment ce genre d'aide.
Mm-hmm.
Il y en a un petit peu, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Voilà.
D'accord, très bien. Je te remercie beaucoup.
Ah oui.
Merci à toi.
Merci.
J'habite un placard parisien pour 600 balles, 9 mètres carrés. Vivre à Paris, c'est pas rien quand les parents peuvent pas casquer. Je suis à la fac toute la journée. En langues étrangères appliquées, le soir c'est la mienne qui s'applique pour satisfaire des hommes pleins de fric. Je sais pas si on est tous égaux. En attendant, j'ai deux métiers pour pouvoir remplir mon frigo. Je suis étudiante, c'est compliqué. Je suis pas le genre de petite merdeuse qui s'offre un mec de 50 ans pour courir s'acheter bien heureuse le tout dernier sac Saint-Laurent dans les bras d'un type plus âgé. Le genre qui pourrait être mon père, s'il est pas beau, il a payé et moi je perds tous mes repères. Comme dans un bon Tarantino, je vois des mallettes pleines de billets pour pouvoir remplir mon frigo. Je suis étudiante, c'est compliqué. Au tout début, je voulais pas le croire. Je suis pas de celles qui font le trottoir, mais un pseudo et un mot de passe te font passer des pattes au passe. Mon père travaille comme ouvrier, ma mère galère comme infirmière, lui me croit serveuse au café, elle n'ose pas lui dire ma pauvre mère. Je fais le plus vieux métier du monde, et pourtant j'adore étudier. Mais pour remplir mon micro-ondes, je suis étudiante et t'as deviné. Je vais me repentir, bientôt j'aurai un petit ami. Je n'en peux plus de leur mentir. Peut-être qu'un jour j'aimerais Paris. Je sais pas si on est tous égaux, mais moi demain mon vrai boulot, il me remplira l'estomac. Je serai traductrice pour le cinéma. Si on est tous égaux, mais moi demain mon vrai boulot, il me remplira l'estomac. Je serai traductrice pour le cinéma.
Que signifie la journée 8 mars pour vous? Le 8 mars est une journée célébrée dans de nombreux pays du monde, mais sa signification peut varier. Selon Wikipédia, le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes, mettant en avant les réalisations des femmes dans la culture, la politique et la société. Cette journée attire également l'attention sur des problèmes tels que l'égalité des sexes, le sexisme, les droits reproductifs et la violence contre les femmes. Prenons le cas de l'Ukraine, la Journée internationale des droits des femmes revêt une signification spéciale marquée par diverses festivités et expressions de reconnaissance envers les femmes. C'est une occasion pour les hommes et les enfants de féliciter leur mère, sœur, fille, collègue et amie en exprimant leur amour, leur reconnaissance et leur respect. Les traditions incluent souvent l'or des fleurs, des cadeaux et parfois même des gestes symboliques tels que la préparation de repas spéciaux ou la planification des activités agréables. En revanche, la France fait partie des pays où le 8 mars n'est pas une journée fériée au sens traditionnel du terme. Les Français ne célèbrent pas la journée internationale des femmes de la même manière que dans d'autres pays. Il n'y a pas de tradition, de cadeaux, de fleurs, de repas, de fêtes. De plus, dans la plupart des cas, de tels cadeaux peuvent être considérés comme un symbole de la flatterie et de dérespect. Cependant, le 8 mars est une occasion pour les Français de réfléchir aux droits des femmes, l'égalité des genres, des associations et des organisations féministes organise des événements pour sensibiliser à ces questions. Il est important de souligner que la connaissance de cette fête n'est pas la même pour tous les Français. De même, l'importance de la fête est subjective et elle est déterminée par chaque individu lui-même. Certains manifestent pour les droits des femmes participent activement à des conférences, des discours publics. D'autres pensent que la lutte pour les droits des femmes, tout comme le respect, l'attention envers les femmes, ne devrait pas se limiter à un seul jour par an. Enfin, il y a ceux qui n'attachent aucune importance particulière à cette fête.
À quoi associez-vous le 8 mars ?
Bah, à la journée du droit des femmes, mais aussi, je dirais, à la fête, parce que c'est quand même festif. Et c'est un moment où les associations de lutte pour le droit des femmes organisent une manifestation. Donc c'est beaucoup de mouvements, je pense. Ouais, beaucoup de mouvements.
Alors pour moi, le 8 mars, c'est la journée... j'allais dire la journée de la femme, mais non, c'est la journée pour le droit des femmes, je crois.
Le 8 mars ?
Oui.
Je sais pas du tout.
La journée du 8 mars, c'est une très bonne question, ça. Je ne saurais répondre.
Ah, donc, vous ne savez pas que c'est la journée de droits de femmes ?
J'aurais dit quelque chose dans le genre, mais je n'aurais pas dit droits de femmes, j'aurais plutôt dit IVG ou quelque chose comme ça.
Bah, égalité entre les hommes et femmes, les femmes d'abord. Dans mon pays, cette journée elle est très importante et toutes les fleurs du pays sont pour nous. Beaucoup de cadeaux ce que je veux dire, que les femmes, elles doivent défendre ses droits, sa liberté, les droits de travail, l'égalité devant les hommes.
Comment célébrez-vous la journée du 8 mars ?
Je vais à la manifestation. Je vais à la manifestation et c'est l'occasion de rencontrer des gens et de célébrer avec mes amis. Mais sinon... Peut-être aller boire un verre après, à la fin, mais on garde ça entre nous.
À titre personnel, je ne la fête pas parce que je suis... j'aime pas trop les journées spécifiques, en fait, pour telle chose ou pour telle chose. Donc pour moi, une journée de la femme, comme une journée de l'enfant ou une journée de quelque chose, ça devrait être tous les jours, en fait. Donc je n'ai pas de célébration spéciale.
J'aime lire des articles sur l'historique du féminisme. J'aime regarder des vidéos, des podcasts réalisés par des femmes qui ont un objectif de sensibilisation. Alors, je ne sais pas pour la célébration, mais je pense que le 8 mars est une journée très importante. Elle a un symbole particulier, mais je suis un peu dubitative pour les célébrations. Beaucoup de personnes ont tendance à confondre le 8 mars avec, par exemple, le 14 juillet. Pour moi, ce n'est pas la même chose.
Et selon vous, les hommes devraient-ils offrir des fleurs et des cadeaux ce jour-là ?
Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Parce que je pense que la journée des femmes, c'est aussi promouvoir la parité, l'égalité entre hommes et femmes. Et donc, on célèbre pas un anniversaire. C'est un moment aussi pour se rappeler les choses qui ont pu arriver aux femmes à cause du patriarcat et du sexisme, etc. Et donc, je pense que ça serait malvenu de la part des hommes d'offrir des fleurs.
Et je pense que c'est très important de se souvenir que ce jour-là, c'est la journée du droit des femmes, pas la journée des femmes. Et que ce jour-là, on ne veut pas un bouquet de fleurs et on ne veut pas un bon pour aller faire un soin dans un institut de beauté. Et qu'on veut qu'on pense à toutes les femmes qui sont martyrisées et qui on empêche de s'exprimer.
Merci beaucoup.
Moi, j'attends un cadeau de mon homme, quoi. c'est mon fête. Il sait que je dois avoir un cadeau, un bouquet de fleurs, et il doit faire tout ce que je veux pendant la journée.
Oui, je sais, mais j'ai donné des cadeaux à ma sœur et à ma mère.
Selon vous, qu'est-ce qui changerait dans le monde si les femmes avaient plus d'opportunités?
Je ne sais pas si ça changerait quelque chose pour le monde, mais ça changerait quelque chose pour elles. En soi, elles auraient, comme vous l'avez dit, elles auraient plus d'opportunités pour travailler, pour évoluer dans la société, pour être indépendantes et être autonomes, et pouvoir se détacher peut-être de leur mari, de leur famille, de leur père, ou peu importe. Mais en soi, je pense qu'on est tous des êtres humains, donc peut-être pour la science ou pour je ne sais pas quoi... Pour les innovations, je pense que ça apporterait peut-être un plus, mais je pense que c'est surtout pour leurs conditions à elles que ça changera quelque chose, pour qu'on soit à égalité.
D'accord, merci.
Mais avec plaisir.
On arriverait à un monde enfin égal, je pense. Si les femmes avaient plus d'opportunités, ça serait l'égalité que tout le monde, dont tout le monde parle, mais qu'on ne voit pas, en fait. Donc moi je suis pour que les femmes aient les mêmes salaires que les hommes, pour que les femmes aient les mêmes postes que les hommes. Ça sera un monde enfin égal. Et c'est ce qu'il nous faut, c'est important ça. Et si une journée peut faire en sorte qu'on pense à ça et qu'on arrive à ce résultat-là, ça serait super.
Beaucoup disent « oui, ça va beaucoup mieux les inégalités hommes-femmes ». Oui, enfin, je ne sais pas si c'est un constat positif que nous devons faire, parce qu'on n'aurait pas à avoir ce débat. Dans une société normale, entre dire est-ce que l'homme avait un meilleur avenir que la femme. Moi, je pense que je me bats pour essayer de réussir aussi bien que possible et pas aussi bien qu'un homme.
Dans le foyer, si les femmes, elles ont la même place dans le travail, peut-être que les hommes vont aussi plus aider à la maison pour la garde des enfants ou ce genre de trucs. Les tâches seront peut-être plus partagées.
Moins de guerre, peut-être. Moins de problèmes.
Peut-être que le monde serait moins brut, moins violent. Il y aurait peut-être plus de parité. Peut-être que ce serait plus... les femmes aideraient peut-être plus les hommes à réfléchir avec leur tête.
Ah, les femmes, elles ont beaucoup de capacités. Elles sont trop fortes et beaucoup plus d'idées, je pense. Alors, ça doit beaucoup évoluer. Dans tous les domaines.
Merci.
De rien.
Non, c'est bon. Oui, je voulais qu'elle voulait ajouter des choses.
Quelle est votre nationalité, par contre?
Ukrainien.
Ah.
Ukrainien.
L'égalité homme-femme, l'égalité salariale, l'égalité des chances, il n'y aurait plus de plafond de verre. Il y aurait beaucoup moins de guerre dans le monde aussi, je pense. Ça impacterait beaucoup de sociétés. Malheureusement, les femmes sont trop bridées dans la plupart des sociétés.
Et la dernière question, qu'est-ce que souhaitez-vous à toutes les femmes en cette journée spéciale?
Eh bien, je leur souhaite de prendre le pouvoir pour cette journée. Non, et de continuer à lutter pour leurs droits Et je leur souhaite aussi que plus d'hommes luttent avec elles et que ça soit une journée à la fois pour elles et pour que les hommes prennent conscience que les femmes sont, que les femmes et les hommes sont pareils et qu'il faut lutter pour ça. Le 8 mars et tous les autres jours.
Et qu'en pensent les Orléanais ? D'après cette mosaïque d'opinions, on peut constater des différences majeures entre les significations du 8 mars pour les Ukrainiens et les Français. Avant tout, il est nécessaire de dire que les cadeaux, qui sont des expressions de respect en Ukraine, sont perçus exactement à l'opposé en France et sont mal vus. De plus, en France, il n'y a pas d'option unique et généralisée pour célébrer cet événement, et l'importance de la fête est individuelle. En Ukraine, par contre, la fête est devenue traditionnelle et le concept de la célébration est largement dépendu. Enfin, le niveau de popularité du 8 mars en France est beaucoup plus bas qu'en Ukraine, mais le niveau de sensibilisation au son et la signification originelle, ainsi que l'histoire de la fête, est faible dans les deux pays. Bien que pour les Ukrainiens, ce soit toujours une journée de cadeaux et de félicitations, de plus en plus de personnes commencent à réfléchir à la signification profonde de la fête et l'intérêt pour les questions d'égalité augmente. À l'avenir, cette petite tendance positive pourrait être le début d'actions concrètes visant à améliorer la vie des femmes.
Je vais attendre que ça finisse. C'est pas long, hein?
Mettons l'accent. Radio Campus 88.3 FM.
Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Madame Magali Bessard, conseillère régionale, 9e vice-président délégué à l'égalité entre les femmes et les hommes et aux formations sanitaires et sociales, pour lui poser quelques questions au sujet d'égalité entre les hommes et les femmes dans notre région Centre-Val de Loire et en France en général.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter, décrire votre parcours politique et professionnel ?
Bonjour, donc merci d'abord de votre invitation. Donc, je suis Magali Bessard, je suis conseillère régionale, vice-présidente auprès de François Bonneau à la région Centre-Val de Loire et je suis déléguée aux formations sanitaires et sociales et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Par ailleurs, je suis élue à Bourges et je suis première adjointe au maire de Bourges, déléguée à la santé et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, mon parcours, j'ai un parcours de militante et je suis élue depuis 2014. J'ai commencé en tant qu'élue dans l'opposition à Bourges.
Très bien. Et on passe à la deuxième question. Alors, doit-on faire des études ? Si oui, lesquelles ? Pour faire de la politique, et particulièrement si on est une femme ?
Alors, on peut faire des études, bien sûr, mais je ne crois pas que ce soit ce qui conditionne le fait de faire de la politique ou pas. Faire de la politique, c'est d'abord s'engager. Pour ce qui me concerne, je me suis engagée dans un parti politique, au Parti communiste français, et je suis par ailleurs, ce sont mes convictions en tant que militante féministe qui ont fait que je me suis engagée. Donc c'est d'abord un engagement et des convictions et la volonté de faire à son niveau, faire bouger les lignes pour faire progresser la société.
Merci.
Donc maintenant, passons à la troisième question. En tant qu'une femme politique, avez-vous rencontré des difficultés ou subi de la discrimination ? Si oui, comment avez-vous réagi ?
Alors, à titre personnel, je pense que Pas vraiment, non. Alors, du sexisme quotidien, anodin, et presque intégré, on en subit toutes. Mais si vous en êtes d'accord, j'aimerais élargir en fait cette question et peut-être souligner que, puisque nous sommes en 2024, souligner que nous allons célébrer cette année le 80e anniversaire du droit de vote et d'éligibilité des femmes en France. Un droit obtenu le 21 avril 1944 et après de longues années de lutte féministe et un droit obtenu à un moment où finalement la France faisait figure de lanterne rouge parce que bien d'autres pays avaient obtenu ce droit. Voilà, donc je pense que c'est une année anniversaire qui sera important de célébrer pour rappeler également que nous avons encore des droits à conquérir, puisque s'agissant de la place des femmes dans la politique, nous avons progressé, notamment grâce aux lois de 2000 et 2007 sur la parité. Nous avons progressé au regard des violences sexistes et sexuelles que les femmes en politique pouvaient et peuvent subir grâce à l'affaire Baupin, qui a été en 2016 finalement le MeToo politique, je le situerai à ce moment-là. Donc, le monde politique s'est longtemps construit par et pour les hommes. Les femmes, en réalité, y ont conquis leur place. Mais il y a encore des choses à conquérir pour qu'elles s'y sentent légitimes et qu'elles représentent davantage, finalement, la moitié de la population, c'est-à-dire la moitié des femmes.
Et que pensez-vous de la situation actuelle en France et particulièrement dans les régions concernant l'égalité entre les femmes et les hommes?
Moi je parle souvent du mythe de l'égalité entre les femmes et les hommes parce que en France il y a on considère que finalement l'égalité est acquise et que globalement ça va. Mais en fait, la région Centre-Val de Loire, elle n'échappe pas au reste de la société française. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, au regard de la loi, on peut se dire que aujourd'hui les femmes et les hommes sont égaux. Sauf qu'en y regardant de plus près, et notamment sur la question des inégalités professionnelles, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je prends pour exemple le rapport de l'INSEE Centre-Val de Loire, un rapport qui est publié chaque année au moment du 8 mars. Et cette année encore, ce rapport montre que dans la région, comme au niveau national, les salaires des femmes restent inférieurs à ceux des hommes, à même catégorie socio-professionnelle et temps de travail identique. Et le salaire annuel net moyen des femmes travaillant dans la région est inférieur de 4 000 euros à celui des hommes à temps de travail équivalent, salaire annuel net. C'est dire, comme nous avons encore des progrès à faire, on sait très bien que ces inégalités de salaire, elles interviennent en fait. Ces inégalités professionnelles, elles interviennent après la première maternité en fait. En général, en début de carrière finalement, il n'y a pas vraiment d'écart de salaire à niveau de diplôme ou à poste équivalent. C'est au moment de la première maternité que l'écart commence à se creuser. Et cet écart se creuse tout au long de la carrière avec ce dont on parle souvent, c'est la question du fameux plafond de verre qui empêche d'accéder au poste à responsabilité. Donc un ensemble en fait de freins qui bloquent l'évolution de carrière des femmes depuis, disons, la maternité jusqu'à l'âge de la retraite et à la retraite, alors là, l'écart est béant, puisqu'on dit que aujourd'hui, finalement, quand on parle de retraités pauvres, il faut accorder au féminin le mot retraité, parce que ce sont les femmes qui sont les plus concernées par la précarité au moment de la retraite. Mais déjà dans l'activité professionnelle, hein, puisque faut-il rappeler aussi que 70% des travailleurs pauvres sont des femmes, ce sont les femmes qui sont les plus concernées par la précarité. Et cette question de l'égalité professionnelle, elle est fondamentale parce que ça pose la question de l'émancipation des femmes. Il ne peut pas y avoir d'émancipation des femmes sans émancipation économique. et en particulier quand les femmes sont sous l'emprise d'un conjoint, d'un compagnon violent. Elles ne peuvent pas, ça rend évidemment plus difficile pour une femme qui souhaiterait échapper à l'emprise et échapper à un compagnon violent, si elle est dépendante économiquement, forcément, la situation est beaucoup plus difficile pour elle.
Quelles sont les actions mises en place par votre délégation à la région, entre guillemets, l'égalité entre les femmes et les hommes ?
Alors, la région Centre-Val de Loire intervient à plusieurs niveaux dans ce domaine. Nous soutenons financièrement les associations, les têtes de réseau régionales, en fait, qui interviennent pour la promotion des droits des femmes, qui mènent des actions de sensibilisation autour de la lutte contre les stéréotypes sexistes, la lutte contre les violences ou l'accompagnement des femmes victimes de violences et la promotion des droits des femmes. Donc d'abord un soutien financier à ces têtes de réseau régionales. Ensuite, une prise en compte transversale de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'ensemble des compétences de la région, c'est-à-dire dans chacune des compétences, des responsabilités de la région. Nous essayons, parce que ça suppose évidemment des efforts, hein, parce que ce n'est pas toujours naturel, hein, c'est de nous interroger systématiquement sur la question du genre, de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'ensemble de nos politiques publiques. C'est aussi ce qu'on appelle une approche intégrée, c'est-à-dire dans chaque politique publique, se poser la question de est-ce que cette politique publique déjà, ne génère pas d'inégalité entre les femmes et les hommes, n'en entretient pas, et même au mieux, comment cette politique publique va permettre de faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc ça, c'est un travail très interne, en fait, qui n'est pas visible du grand public, et pourtant qui est mené par l'administration de la région, et qui est fondamental, parce que nous sommes garants de la dépense publique, et s'interroger sur la prise en compte de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'ensemble de nos politiques publiques, c'est garantir aussi une dépense publique égalitaire. Et puis, quand nous notons des inégalités, des injustices dans un domaine particulier, nous avons des dispositifs spécifiques. Je pense notamment, puisqu'on parlait de l'égalité professionnelle, au plan d'action régionale pour l'entrepreneuriat par les femmes. Ça, c'est un dispositif spécifique que nous coportons avec l'État, avec la Banque publique d'investissement. Et là, nous mettons directement des moyens auprès des structures de la région, du territoire, qui accompagnent les femmes qui ont un projet de création d'entreprise ou de reprise d'entreprise. En tant que femmes, elles sont confrontées à beaucoup de freins pour créer leurs entreprises, pour mener leurs projets à terme. Et donc, il y a des structures sur le territoire qui les accompagnent, qui les préparent, par exemple, à l'entretien auprès de la banque pour obtenir le crédit, qui les aident, en fait, à structurer leurs projets et à prendre confiance en elles aussi, à prendre confiance en elles et surtout à accepter qu'elles sont tout à fait capables de concilier vie professionnelle et vie familiale et de créer, de mener à bien à terme leur projet.
Et d'après vous, les filles et les garçons ont-ils les mêmes chances d'accéder aux études supérieures ?
Alors, d'un point de vue du droit, oui, ça c'est sûr. Par contre, dans la réalité, on voit bien qu'il y a des écarts qui interrogent sur la question des représentations et des stéréotypes sexistes. Par exemple, s'agissant des filières scientifiques et techniques, on voit bien que les filles y sont peu présentes, alors qu'elles ont d'excellents résultats scolaires. Et que rien ne les empêche, en théorie, de choisir ces filières scientifiques et techniques. Et pourtant, elles sont absentes. Et à une époque où l'ère numérique, à l'époque de l'ère numérique, on constate qu'elle ne représente que 20% des effectifs. Et donc, on doit bien s'interroger sur la raison pour laquelle elles ne choisissent pas ces filières. Et pourtant, des filières qui sont des filières prestigieuses, à forte possibilité d'évolution de carrière, à rémunération importante. Voilà, donc elles y sont peu présentes. Et en revanche, elles sont très présentes, massivement présentes, dans des filières du soin, de l'éducation, du nettoyage, des filières dans lesquelles il y a peut-être moins de possibilités d'évolution de carrière, des rémunérations plus faibles et...